Salut à tous et bienvenue pour le 20e épisode de Vue du Banc, le deuxième en 2017, et on va justement se tourner un petit peu vers ce qui se passe en 2017 après une partie d'épisode consacrée au bilan de ce qui s'était passé en 2016. Et pour cette semaine, on va accueillir l'équipe type habituelle avec d'abord Raphaël Cosmidis. Salut Raphaël.
Bonjour, bonjour.
Et Christophe Cuchely.
Salut.
Salut. Et on va démarrer tout de suite avec ce qui s'est passé ce week-end, et on va revenir sur un match en particulier qu'on a vu avec Raphaël. Christophe va se sentir un peu exclu. C'est Villarreal-Barça, match nul entre les deux équipes et une année 2017 qui commence assez difficilement pour le Barça, puisque les Catalans ont d'abord perdu dans la semaine en Coupe du Roi contre Bilbao à San Mamés 2-1 et donc se sont fait accrocher par Villarreal. Et justement, Christophe, vu que t'as pas vu Villarreal, on va parler un petit peu du match contre Bilbao, où on a revu un Barça en fait qui a eu les mêmes difficultés qu'il avait eu contre City, contre Séville, et qui s'est fait prendre dès sa sortie de balle en fait.
Ouais, c'est ça. Pour dire à quel point le Barça s'est fait prendre haut juste après la perte de balle, c'est que le deuxième but, le caméraman, enfin le réalisateur, se fait surprendre. Il est encore sur le ralenti de l'action qui, je crois, amène la touche. Et en fait, c'est Alba qui se fait presser très haut et ça passe, qui est une espèce de dégagement est un peu trop court. Et trois relais plus tard, ça fait but pour Bilbao. Et juste avant, c'est une passe ratée d'Iniesta, c'est assez rare au milieu de terrain, mais la passe est ratée aussi parce qu'il y a une pression directement sur celui qui doit recevoir la balle. Et pareil, en deux transmissions de balle, ça fait tout de suite but pour Adouriz, avec une équipe qui à la fois presse assez haut et en plus arrive à bien combiner et à se projeter très vite. Et donc ça prouve que le Barça peut se faire avoir de la même manière qu'il a souvent gagné des matchs, ou en tout cas marqué des buts, c'est-à-dire avec un pressing haut et des joueurs qui peuvent se projeter très rapidement après la récupération. Et là, Bilbao, ça faisait un peu Dortmund de Klopp, avec du kick and pressing et une capacité à aller très vite, ce qui est assez intéressant puisque... Même s'il y a des joueurs comme Iñaki Williams qui sont rapides, techniques, tu as aussi Adouriz qui est plus vu comme étant, peut-être pas un grand gabarit, parce que même s'il est bon de la tête, il n'est pas si grand que ça, mais qui est quand même plutôt jeune et qui peut souvent jouer les pivots. Mais là, on voit que des équipes dont c'est pas forcément le profil, et en tout cas qu'on n'imaginerait pas presser à ce point-là, peuvent surprendre le Barça et lui marquer un but dans les 5-6 secondes suivant une récupération de balle.
Raphaël, Villarreal, c'était tout le contraire. Du coup, on a eu une équipe qui, certes, quand elle était haute, évidemment, elle faisait tout pour empêcher le Barça de ressortir correctement et d'atteindre la MSN pour ensuite attaquer rapidement. Mais on a eu une équipe qui a vraiment laissé l'initiative au Barça, qui l'a laissé progresser quasiment jusqu'à sa surface de réparation. Par contre, au niveau de la surface, c'était très compliqué de rentrer dans les zones intéressantes et notamment plein axe. Et au final, un Barça qui a été aussi impuissant que face à Bilbao.
Ouais, alors Villarreal, c'est vraiment un 4-4-2 complètement porté sur la zone, où on défend pratiquement que l'axe et on laisse les côtés assez libres. Alors ça fait assez sens face à cette équipe du Barça avec Alba blessé et un couloir droit qui est assez irrégulier avec Sergio Roberto. Puis ce qui était intéressant aussi, c'était la capacité à se projeter à partir d'une récupération de balle difficile, parce que souvent le Barça, quand il arrivait devant le but de Villarreal, c'était très proche du but, tu l'as dit, et c'était soit sur des centres, soit sur des tirs contrés. Et à partir de ces situations-là, Villarreal a des joueurs de ballon qui sont très intelligents, qui sont capables de ressortir proprement, comme Trigueros et Bruno au milieu, ce qui te permet ensuite de rapidement projeter vers l'attaque. Et ça, Sansone et Pato devant, le duo a fait beaucoup de mal. Pato a retrouvé cette capacité à faire très mal au Barça comme il aimait le faire quand il était au Milan. Ils ont rapidement cassé le milieu de terrain du Barça, où Busquets s'était complètement isolé. Alors André Gomes, on est encore circonspect sur ce qu'il apporte à ce Barça-là. Et puis Iniesta, on sait que défensivement, il ne peut pas en faire autant. Donc Busquets était un peu seul dans cette zone. Il a eu du mal à défendre face à ces mecs-là. Et derrière, défendre en reculant pour ce Barça, c'est très très difficile, et c'est sur un contre comme ça où le Barça recule sur 50-60 mètres que Sansone finit par marquer. Donc ce qui est inquiétant pour le Barça, c'est qu'on l'a vu contre Bilbao et contre Villarreal, quel que soit le plan adverse, si le plan adverse est bien exécuté, finalement les Catalans sont en difficulté.
Tu l'as noté, Raphaël, c'est que le Barça avait de grosses difficultés au niveau du pressing à la perte, et ouais. C'est quelque chose qui qu'on avait vu justement, on avait vu le contraire face à l'Atlético un peu plus tôt dans la saison, où les Catalans avaient été très bons justement sur ce pressing à la perte parce qu'ils faisaient face à une équipe aussi qui les attendait très bas. Et là, en l'occurrence, ils avaient réussi à bien empêcher les sorties de balles, les transitions adverses. Et là, face à Villarreal, ouais, ça n'a pas fonctionné.
Non, mais c'est ça. Et le souci, c'est que on se demande depuis quelque temps pourquoi Busquets est autant en difficulté. Alors, il y a peut-être une baisse de niveau personnel, mais par contre, il est complètement abandonné par le reste de l'équipe. Il est pareil, les attaquants ne bossent plus du tout. Il y a aucun remplacement de la part de Neymar, Suarez et Messi. Alors, c'est ce que disait Sampaoli d'ailleurs il y a quelque temps. Il disait quand je veux voir une équipe, je regarde le Bayern, et quand je veux voir des individualités, je regarde le Barça. Alors à l'époque, ça pouvait passer pour un truc de mauvaise foi parce que le Barça venait de gagner la Ligue des Champions. Mais on se rend compte au fur et à mesure du temps que c'est assez vrai, et que quand cette équipe ne fait pas la différence rapidement et ne marque pas 2-3 buts pour faire l'écart, ensuite le manque de travail collectif défensivement, bah tu le payes direct, parce que Villarreal, c'est quand même une équipe top, une équipe qui a battu l'Atlético en début de saison, qui est capable, on l'a dit, de défendre très longtemps dans sa surface, et ça c'est assez impressionnant. Alors c'est plus facile quand en plus Bruno Soriano fait des mains qui sont pas sanctionnées dans la
Ouais.
surface.
Petit fourbe.
Magnifique, hein, il est...
Ouais.
ouais, une main d'espèce je sais pas, c'est comme quand Abidal avait joué de la tête là en se couchant, mais sauf que là c'était la main.
Un
Une petite
lézard pour
déviation, ouais,
reprendre
c'est
Christophe.
ça.
Une main
Un
de
lézard
lézard.
défensif, ouais.
D'ailleurs,
Et voilà ce qui... Non, mais vas-y, Flo.
Christophe, on va rester un peu sur Villarreal parce que là on parle beaucoup du Barça, on y reviendra après. Villarreal qui aujourd'hui du coup est la meilleure défense de Liga. Et c'est vrai que Raphaël en parlait, leur capacité à défendre bas et à surtout être hyper présent dans leur surface, ça les rend très difficiles à prendre à défaut. Contre le Barça, je me rappelle plusieurs images où quand le Barça décalait sur les côtés, t'avais 7, 8, voire 9 joueurs dans la surface de réparation avec le seul Sansone qui était, et encore qui était pas beaucoup plus haut, qui était juste 10 mètres plus haut. Alors est-ce que Villarreal c'est au final, avec un peu moins de moyens, est-ce que c'est un petit Atlético, sur le plan défensif en tout cas?
Ouais, ou sur le coup, quand t'as commencé ta phrase, j'ai cru que t'allais dire un petit Leicester.
Ouais.
C'est une équipe qui connaît ses forces et connaît ses faiblesses, qui arrive à mettre une organisation défensive en place qui te permet d'être assez solide sur tes bases. Et ensuite, il y a à la fois des joueurs rapides comme Pato et à la fois des joueurs un peu plus techniciens comme Dos Santos. Pour en gros bonifier les attaques rapides que tu auras, faire la bonne passe pour un mec qui va partir en profondeur, qui va faire des courses. Il y a Bakambu aussi qui est dans la discussion, qui a des problèmes un peu physiques cette saison, mais qui
Soldado qui
reste
est
un joueur
blessé aussi.
complet. Ouais, Soldado, bon, lui, c'est a priori fini pour la saison, je pense, mais ça prouve quand même qu'il y a un réservoir derrière. Je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est leur organisation défensive qui leur permet de pas prendre de but, donc ce qui fait que les éléments sont quand même plutôt interchangeables. Et là, je regardais contre l'Atlético, ils gagnent 3-0 alors qu'ils ont pas Musaciu en défense centrale, qui est quand même un élément très important de leur équipe. Et pourtant, ils sont pas du tout menacés du match et l'Atlético arrive à rien construire du tout. Et à l'inverse, ils ont des joueurs de talent offensivement qui leur permettent de faire des différences en étant en infériorité numérique, mais en faisant la bonne passe, le bon appel, la bonne course. Et au final, c'est une équipe assez qui est pas très romantique si on doit la juger. Elle n'a pas des ambitions de jeu incroyables, sauf qu'elle a des très bons joueurs. Elle a un Bruno Soriano au milieu notamment qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Espagne à son poste et même en général depuis 2-3 ans. Je crois que l'an dernier il est élu, il est sur le podium des meilleurs milieux de terrain de Liga. Il est complété par Trigueros qui fait vraiment une saison incroyable. Je pense que là il doit pas être loin de l'équipe nationale parce que c'est aussi l'une des grosses révélations de cette saison. Et au final, cette équipe-là, elle a largement sa place dans le top 4. Alors il y a encore rien de fait, mais il y a vraiment de belles choses qui se font et aussi un petit peu. D'une certaine manière, comme le faisait parfois le Séville d'Emery, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas un grand romantisme et des ambitions de jeu assez incroyables, eh ben, la qualité des joueurs et la qualité des enchaînements offensifs fait que tu peux prendre beaucoup de plaisir à voir cette équipe-là
Ouais,
évoluer.
mais il y a quand même des principes de jeu assez séduisants, et notamment genre une touche de balle, qui est un vrai principe de Villarreal depuis plusieurs saisons, je dirais depuis Marcelino, où ils sont capables de rapidement à la récupération, soit genre une touche de balle pour ressortir de la zone de pression de l'adversaire, soit pour aller contrer. Et Christophe l'a dit, c'est aussi une équipe qui s'appuie sur des principes défensifs très solides, mais qui sont là aussi depuis 3-4 ans. Ça fait 4 ans que Villarreal joue en 4-4-2, ça fait 4 ans qu'ils jouent en zone. Alors c'est vrai que c'est comparable à l'Atlético, Défensivement, je dirais que la nuance, c'est que contrairement à ce que fait Simeone, Villarreal va pas forcément défendre les côtés comme des forcenés. C'est-à-dire que l'Atlético va attendre que l'adversaire arrive sur le côté, et puis d'un coup, on va tous aller dans cette zone, on va fermer, on va récupérer le ballon ici, et puis on va repartir. À l'inverse, Villarreal va préférer laisser le latéral seul, récupérer le ballon sur un centre en déviant le ballon, en détournant, en renvoyant, et à partir de cette zone de récupération plus axiale, là, tu vas pouvoir partir vers l'avant. En revanche, la similarité, je finis Flo, la similarité, c'est qu'on l'a dit à Jonathan Dos Santos, qui est un très bon joueur, et ça ressemble un peu à l'Atlético dans le sens où Villarreal ne met pas vraiment d'ailier sur les côtés, mais plutôt des milieux de terrain qui
Ouais.
vont être intelligents et pouvoir faire le boulot dans tout le couloir.
Il y a ce qui est, par rapport à ce que tu as dit quand même, il y avait un petit bémol parce que par rapport au match face au Barça, il y avait quand même une gâchette pour déclencher le pressing sur Digne ou Sergi Roberto quand tu avais
Ouais,
les passes des parce
parce
qu'ils
qu'ils
sont
sont
plus
faibles
faibles.
aussi.
Exactement, exactement, ça vient de là. Et ensuite, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette équipe, c'est vous en avez un peu parlé déjà du jeu de transition, etc. C'est qu'à partir du moment où tu as du monde dans la surface de réparation à la fin de l'action, c'est-à-dire que tu te retrouves avec 7-8 joueurs qui quadrillent la surface et qui empêchent l'accès à la danger zone qu'aiment bien les statisticiens, à partir du moment où tu quadrilles bien la surface, les défenseurs sont dans un certain, on va dire, confort pour relancer. Ce qui fait que c'est pas des dégagements, c'est quasiment des passes qu'ils font quand le ballon ressort. Et plusieurs fois face au Barça, sur leur contre, les ballons récupérés dans la surface ou proche du but, mais c'était quasiment des relances qui finissaient sur
Ouais,
poteau.
mais
Alors,
après,
j'ai
faut
pas,
avoir
j'ai
cette
pas.
propreté dans la surface et
Exactement.
c'est pas réservé à tout le monde parce que sur ces ballons-là, en général, soit le défenseur va faire une relance en catastrophe et ça va partir en vrille, soit tu prends un CSC tous les 2-3 matchs parce que tu défends tellement bas que quand il y a des centres et des centres qui se répètent et que les défenseurs sont nombreux, bah, il y a toujours une confusion qui se crée et c'est cette capacité chez Villarreal à ne pas entrer dans cette confusion malgré le nombre de jambes dans la surface qui est impressionnant.
C'est ça, voilà. Ben on va passer justement, on va revenir sur le Barça maintenant. Maintenant qu'on a bien posé Villarreal avec une équipe qui laisse notamment venir sur les côtés, et on a une question de Soz sur Twitter qui nous demande exactement sur le Barça. D'ailleurs, il faut que je retrouve la question. Voilà. Quelle est l'importance du départ de Daniel Alves dans les difficultés offensives du Barça cette saison? Raphaël, ben je pense qu'à partir du moment où tu vois le match contre Villarreal. Bah, tu vois que Digne et Sergi Roberto, voilà, au niveau des centres, je crois, au niveau de l'apport offensif, c'est 0 sur 7 au niveau des centres et c'est 3 passes clés, mais 3 passes clés qui finissent à l'extérieur de la surface à chaque fois. Donc, voilà, on est loin du niveau de Daniel Alves qui, si défensivement c'était pas toujours ça, offensivement, aujourd'hui, il n'y a aucun joueur du Barça qui est capable d'avoir son apport.
Ouais, en plus Daniel Alves, on aimait bien l'enterrer tous les 6 mois en disant ça y est, il est cramé, ça y est, il est cramé. Puis le lendemain, il te faisait un match où tu te disais ouais, non, finalement, ça reste une force de la nature. Le souci pour le Barça, c'est qu'il y a déjà eu des époques où il y avait un seul latéral sur deux qui apportait offensivement. À l'époque du Guardiola, c'était Daniel Alves sur le côté droit et puis Abidal était
Oui, c'est
beaucoup
vrai.
plus bas. C'était presque une défense à 3 où il surveillait. Le souci, c'est que là, c'est en même temps sur les deux côtés que tu as des soucis parce que Alba est blessé.
Et
Et de
pas
l'autre
bon.
côté,
Et
ouais,
pas bon quand
et en
il joue,
plus.
hein, Jordi Alba. Il avance plus.
Et puis, bon, Digne a des limites qui me paraissent quand même difficiles à surpasser pour un joueur qui est censé apporter dans tout un couloir au Barça parce que les ailiers jouent vraiment plutôt à l'intérieur. Et puis, de l'autre côté, Sergio Roberto, qui est un joueur intelligent, hein, qui fait le boulot, mais qui est pareil, qui a pas le coup de rein pour apporter, qui est capable de bien centrer, mais qui ne peut pas dépasser son adversaire direct. Donc, ça, c'est des vraies difficultés. Et on s'est rendu compte au fil du match qu'entre les limites des latéraux et les méformes des joueurs offensifs en dehors de Messi. Bah, soit le ballon passait par Messi, soit le ballon il était vraiment mal utilisé.
On va en parler, Christophe, de la MSN Messi, Suarez, Neymar, où aujourd'hui, en fait, il n'y a que le M qui fonctionne. Parce que Suarez et Neymar, sont en deçà. Suarez, je pense que c'est, personnellement, je pense que c'est physique. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité à multiplier les appels comme quand il était à fond en 2015 et il courait partout. Là, contre Villarreal, il y a eu 2, 3, on va dire 4 appels peut-être intéressants. Mais pas la constance sur 90 minutes pour faire souffrir une défense et peser. Et puis à côté, t'as Neymar qui passe un petit peu du statut par rapport à l'année dernière, tu sais, quand Messi était blessé, il avait un statut quasiment de ballon d'or potentiel où il était monstrueux. Et là, cette année, il passe plus personne, quoi.
Ouais, Neymar, le problème, alors sur ce match-là contre Villarreal, j'ai juste vu le résumé, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, il a vraiment l'air d'être en dilettante. Il a toujours été un joueur assez facile, qui est plus dans dans le geste et dans l'action de classe que dans la hargne. Tandis qu'un Suarez, par exemple, pourra faire les deux et sera tellement dans la hargne que du coup, tu sous-estimeras un peu les qualités techniques qu'il peut avoir. Le problème, c'est que souvent, il doit aller devancer un défenseur pour couper un ballon au premier poteau. Et il ne va pas y aller. Il va y aller en trottinant, il va essayer de faire un contrôle, il va se faire devancer. Et donc ça peut passer si tu es capable d'éliminer en un contre un, de faire tes dribbles, de cadrer tes frappes. Sauf qu'en ce moment, il n'y arrive pas. Il faut se rappeler quand même de ce qu'il bouffe dans le Classico contre le Real, qui va peut-être s'avérer être l'un des tournants de la saison, parce que si le Barça gagne ce match-là, peut-être que ça change toute la dynamique, et en tout cas le classement serait beaucoup plus resserré à l'heure actuelle. Et ouais, c'est bizarre, parce que ces dribbles qui avant passaient, là vraiment ont du mal à passer, et ça c'est vraiment un problème personnel. Il ne compense pas en se replaçant plus, en faisant plus de boulot défensif, donc du coup il peut même pas un petit peu rééquilibrer la balance là-dessus. Et le problème, c'est que, ok, Messi est toujours à son niveau, il est toujours énorme, sauf qu'il ne peut pas bosser pour 3, ou en tout cas pour 2, parce que Suarez est un petit peu plus en bout de chaîne et a un peu plus besoin du travail des deux autres, même s'il contribue. Mais si t'as un joueur et demi sur les 3, ça a beau être Messi, si tu veux, t'es quand même en Liga, t'as quand même des équipes qui sont préparées, qui ont l'habitude de jouer contre toi. En plus, je pense que le jeu est quand même beaucoup plus dépendant des individualités que n'était celui de Guardiola, ce qui permettait d'aller très très haut quand tes individualités étaient au top, mais ce qui peut forcément te rendre beaucoup plus vulnérable quand elles sont moins bien. Et cette équipe-là, bon, je pense que pour le titre, ça commence progressivement à s'éloigner, mais il faut faire attention parce que tu n'es même pas sûr de terminer deuxième ou troisième. Donc il faut faire gaffe quand même parce que tu restes le Barça, tu as un statut à avoir en Ligue des Champions. Et au-delà du championnat, si tu sors en quart, voire en huitième contre le Paris Saint-Germain, ça peut être vraiment une grosse, grosse crise comme ils n'en ont pas connu depuis très longtemps.
Bon, par contre, Raphaël, il y a un joueur qui échappe à tout, encore une fois, et qui permet au Barça de s'échapper du Madrigal avec un point, c'est Messi. En chiffres, à vite fait, 6 tirs dans le match, 7 passes clés, donc ça fait impliqué sur 13 des 20 tirs du Barça. C'est, voilà, c'est juste monstrueux. Et en plus, bah, il sort ce coup franc clutch au possible dans les dernières minutes.
Ouais, ce ballon sur lequel il a mis du rouge à lèvres, comme a dit Omar Da Fonseca. Non, mais c'est il est incroyable, quoi. T'as l'impression qu'il n'est pas, disons, vulnérable comme les autres joueurs pourraient l'être. C'est-à-dire que Neymar, tu peux te dire, bah, il a fait les Jeux Olympiques, il est en difficulté, une petite baisse de forme, ça arrive. Même à Cristiano Ronaldo, ça lui arrive. Et puis Messi, dès que le Barça est en difficulté, en tout cas depuis qu'ils sont dans ce projet où les trois offensifs sont vraiment libérés et puis s'ils sont mauvais, en effet, comme l'a dit Christophe, t'es un peu en danger, bah c'est le vrai sauveur à chaque fois. Alors chaque année on se dit, ouais, Neymar a peut-être été meilleur cette saison, Suarez a peut-être été meilleur, mais non, il faut se rendre compte que Messi est sur une planète largement supérieure à tous les autres joueurs sur la planète, sur cette planète, sur notre planète, quoi. Il y a pas un joueur qui rivalise avec lui, et les stats sont encore impressionnantes face à on vient d'en parler, en plus une équipe qui défend très très bien. Il réussit 3 dribbles, il crée 7 occasions, c'est énorme, il tire 6 fois.
Il touche avant le poteau, il
touche le poteau alors qu'il y a très peu d'espace pour tirer. Ça, ouais. C'est encore une fois, c'est impressionnant, il a une capacité à se trouver des positions de tir dans des défenses resserrées qui est la meilleure au monde. Voilà, c'est le meilleur joueur du monde dans tous les domaines. Et puis j'ai encore quelqu'un qui m'a attaqué, qui m'a dit, ah, t'as un Barcelonais, Pjanic, il tire mieux les coups francs. peut-être qu'il les tire mieux en général, mais Messi, il a mis beaucoup plus de coups francs importants que Pjanic dans sa carrière. Et c'est ça, il est clutch. C'est un truc qu'on dit pas, qu'on dit finalement assez peu. C'est que Messi, malgré toutes les finales qu'il perd en équipe nationale, à chaque fois est clutch. Et même dans les tournois avec l'Argentine, s'il n'était pas là, ils auraient perdu un nombre de matchs ou ils auraient fait des matchs nuls tout le temps. Donc c'est il a quoi, il va avoir 30 ans cette année. Il y a un débat sur le meilleur joueur de l'histoire. Je pense que le football est tellement plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque de Maradona qu'il devrait même plus y avoir débat. Mais bon, je vais me faire taper dessus pour ça. Mais ah, c'est un joueur qui ne cessera de nous éblouir. En tout
on
cas.
Va la garder en punchline celle-là. ben justement, on va finir en ouvrant sur le PSG. Christophe, le huitième de finale, c'est dans un mois. Alors on a parlé là, un petit peu du Barça, de leurs problèmes. Alors le problème des latéraux. Il risque de ne pas pouvoir le régler d'ici un mois. Par contre, le problème de la MSN, attention, hein, parce que ça peut tourner dans le bon sens à tout moment. Et il paraîtrait justement que Luis Enrique et le Barça aient justement ciblé ce mois de février pour que tout le monde arrive en pleine forme. Alors ça, on verra, hein, c'est le genre de pari qui aussi peut tourner dans le mauvais sens si la dynamique n'est pas là. Mais est-ce que entre Bilbao et Villarreal, bah, Paris n'a pas les deux exemples à suivre, Bilbao pour justement aller chercher le Barça haut et Villarreal la défense basse. Et en l'occurrence, ce sont deux secteurs sur lesquels Emery veut bosser depuis le début de la saison et veut faire progresser le PSG. Donc voilà, tout va se jouer sur ces deux points certainement.
Ouais, puis en plus avec l'arrivée de Draxler, je suis en train d'imaginer une composition d'équipe où Paris en 4-3-3 mettrait d'un côté un Di Maria qui pourrait faire les passes, de le côté Draxler qui pourrait prendre la profondeur et être une espèce d'ailier attaquant beaucoup plus percutant, et en pointe Cavani. C'est un trident qui me paraît qui me paraît au moins aussi bon que ceux de Bilbao et ceux de Villarreal, et qui me paraît en capacité de mettre le Barça en danger. Faut quand même se rappeler que le Barça, alors on dit que c'est une équipe qui est quasiment impossible à sortir avant les demi-finales de Ligue des Champions. Certes, il gagne en 2013-2014, mais l'année dernière, ils sortent en quart de finale. L'année avant leur titre avec Martino, ils sortent aussi en quart de finale. C'est une équipe qui, malgré tout, reste sur deux éliminations entre guillemets précoces en trois saisons. Je pense que Paris a des choses à faire, il y a des points sur lesquels insister. Je m'interroge sur la forme des latéraux parisiens en ce moment, leur niveau maximum et ce qu'ils pourront faire dans ce match-là. Je pense que ça sera une donnée clé. Est-ce que les latéraux parisiens seront là pour...
Puis qui va jouer aussi, c'est ça. Ouais. Quels latéraux vont jouer aussi?
Bah c'est ça, ça fait partie de mon interrogation sur le niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se dégage vraiment. Et selon les choix que tu vas faire, est-ce que tu seras plus dans un côté conservateur? Est-ce qu'au contraire, tu voudras que ça soit des contre-attaquants? Villarreal était plutôt sur des latéraux qui étaient là pour bloquer.
Ouais.
Je pense que Bilbao aussi, c'était globalement l'idée. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus entrer dans une logique où tu vas laisser de l'espace à Neymar ou à Messi, parce que malgré tout... ils vont quand même savoir profiter d'une égalité numérique si tu abandonnes trop ta défense. Mais si ton milieu arrive à tenir le choc, et je pense que le milieu barcelonais est friable en ce moment, donc tu peux tenir le choc, derrière, tu auras des occasions. Après, il y aura une question de réalisme, forcément. Mais je pense que ton dispositif peut permettre d'être sur un 35-65 ou un 40-60. Et ensuite, tout jouer sur le côté réalisme. Parce que bon, il faut quand même voir que Villarreal et Bilbao ont un petit peu de chance avec l'arbitrage, notamment sur ces deux matchs-là, et que ça peut aussi mal tourner pour eux. Donc, c'est des victoires, c'est pas non plus des victoires nettes, mais ils ont eu le petit soupçon de réussite, ce qui leur permet de gagner ces matchs-là, enfin de gagner et de faire un match nul. Donc, Paris peut très bien s'inspirer de ça, avec 12 joueurs qui, a priori, sont un petit peu meilleurs que ces deux équipes-là.
Et Raphaël, on n'a pas parlé d'un joueur, mais cette double confrontation, surtout quand on voit la perf de Bruno et de Trigueros au milieu. Alors, je parle plus pour l'aspect défensif que pour l'aspect relance, parce qu'il a un peu de mal à Paris avec ça depuis qu'il est arrivé. Mais ça peut être un match pour Krikoviak. Et d'ailleurs, on l'avait déjà vu face à Arsenal, où son boulot, c'était un petit peu d'éteindre Özil. Et Özil, on l'avait pas beaucoup vu hein, sur les deux matchs, excepté une fois où, justement, il sort une passe décisive pour Iwobi, je crois que c'est au match aller. Mais ça peut être un match pour lui. En plus, Messi, il connaît et... Et il a déjà eu affaire à lui avec Séville.
Ouais, et puis en plus, je pense que Unai Emery est beaucoup moins bête que ne le pense l'équipe du soir. Et qu'à chaque fois qu'ils font un gros match où tu vois Krikoviak qui est titulaire, c'est en préparation pour ces matchs-là où tu sais que tu vas devoir défendre sur un top joueur dans cette zone-là, parce que Messi ne joue plus vraiment sur l'aile depuis quelques semaines, quelques mois. Enfin, l'année où ils sont champions d'Europe avec Enrique, il avait vraiment retrouvé le côté pour faire mal à l'Atlético. Mais là, il s'est recentré. Et dans cette zone-là, Villarreal a eu beaucoup de mal à défendre. Si tu mets Krikoviak en individuel sur Messi, bah alors tu pars sur un pari, parce que Messi sera toujours supérieur et sur un match, il peut faire la différence. Mais tu sais que tu auras un mec qui sera capable de tacler, d'aller récupérer le ballon dans les pieds de Messi, ce que très peu de joueurs savent faire. Krikoviak, contrairement à ce qu'on croit, est capable d'être à la course, de rivaliser avec un gars. Il l'avait montré à Séville. Donc c'est une zone où tu as besoin d'un gars comme ça. Et je pense que si tu mets Messi face à Thiago Motta, tu vas avoir plus de qualité dans la relance, mais par contre tu sacrifies complètement une zone parce que Motta ne pourra jamais se retourner face à un dribble de Messi. Donc voilà, contrairement à Villarreal ou l'Atlético, Paris sera plutôt en 4-3-3. En tout cas, ça a l'air d'être le projet d'Emery. Je pense qu'ils chercheront plus haut que ne l'a fait Villarreal, parce que Emery en tout cas a joué comme ça contre Arsenal, qui est une équipe de possession, et j'imagine que tout ce qu'il fait, c'est en préparation pour ces matchs là parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir en jouer un pour aller loin dans cette compétition. Donc voilà, on peut imaginer un système comme ça. En effet, Christophe a raison de se demander pour les latéraux ce qu'on va faire, parce qu'entre Meunier et Aurier, depuis quelques temps, on ne sait pas vraiment qui est le numéro 1. Kurzawa, on ne connaît pas son état physique, il a apparemment décidé de ne pas faire d'opération, donc il va essayer de se remettre. Tu as un Maxwell qui est toujours bon, mais qui ne peut pas t'apporter autant offensivement. Donc voilà, par où va passer le projet de contre-attaque de Paris? Par qui aussi? Est-ce que Verratti sera au top? Là, il a l'air de très très bien revenir. Est-ce que Rabiot sera bien revenu? Matuidi jouera-t-il ailier gauche? Voilà. Il y a des questions au niveau individuel. Après, je pense que sur le plan de jeu, on sait à peu près ce que va faire Emery. Sur la défense haute, on sait ce que vaut Paris. Par contre, j'ai un peu de questions sur la capacité à défendre bas, parce qu'il n'y a finalement pas de match où on voit Paris défendre bas, donc on ne sait pas ce que ça vaut vraiment.
Sauf Arsenal. Le seul, ça a été Arsenal au final, sur certaines
Ouais,
séquences.
mais ils ont eu justement des difficultés pour ressortir pendant quelques minutes où ils sont restés longtemps dans leur camp. Et ça,
Mais
c'est un souci pour ce PSG.
justement, par rapport au match face à Villarreal, moi, mon impression et pour le PSG, c'est que autant la défense basse, Emery, enfin, la pratique est déjà avec le FC Séville. Et notamment le quadrillage de la surface. Hein, l'an dernier, vous vous retrouviez avec Séville, avec 8 joueurs dans la surface. Et
Ouais,
c'était
mais
très
t'avais
compliqué de
d'autres joueurs qu'à
pénétrer.
Paris,
Mais
t'avais d'autres joueurs qu'à Paris aussi.
justement, après, Paris peut quand même s'appuyer sur peut-être le meilleur défenseur dans sa
Ouais,
surface,
c'est
Thiago
vrai.
Silva en l'occurrence. Mais le vrai problème pour Paris et la vraie marge de progression à mon avis, je pense que Paris sera capable de résister défensivement. Mais en effet, à un moment donné, il faut ressortir. Et là, c'est vrai que si tu te retrouves avec Cavani, dont la première touche est généralement pas très bonne, ou avec Matuidi, qui sont dans les deux mecs sur lesquels t'es censé t'appuyer, si Matuidi joue ailier gauche, avec cette hypothèse-là, tu vas avoir beaucoup de mal à ressortir la balle. Et il va falloir que tu comptes sur des sorties quasiment balle au pied, des milieux. Or, c'est pas l'habitude de Verratti.
J'imagine que si tu recrutes Draxler, c'est pour le faire jouer dans ce couloir gauche, match face au
Voilà,
Barça.
il y a ça.
J'imagine que tu le respectes assez pour le faire jouer là. Mais du coup, qui tu choisis au milieu entre Rabiot, Matuidi, Krikoviak, qui tu mets au
Verratti,
poste de
etc.
numéro 6, qui va être un poste où tu vas passer plus de temps à défendre qu'à toucher le ballon. Parce que le Barça ne va pas te laisser ressortir non plus. Donc il y a beaucoup de questions sur le plan individuel. Voilà, c'est encore la même chose. Mais en même temps, les individualités influent sur le plan collectif. Et puis c'est est-ce que tu vas arriver à toucher les joueurs qui vont être capables de ressortir à la vraie récupération du ballon? Ça, c'était un peu le souci de Blanc. Je pense qu'Emery sera un peu meilleur là-dessus. Mais pareil, pour défendre la surface, à Séville, il avait Nzonzi, il avait Iborra qui étaient des milieux qui pouvaient revenir dégager des ballons. Là, quand tu as Verratti et même Rabiot qui est un bon joueur de tête mais qui n'est pas forcément dans l'impact aussi fort que ces mecs-là, tu as des questions.
Eh ben, des questions auxquelles on répondra au moment du match, hein, ou quelques jours avant.
Vivement, vivement.
Vivement en tout cas, ouais. J'espère que la discussion qu'on vient d'avoir à partir du match du Barça et l'ouverture sur Paris a donné envie aux gens. Et maintenant, on va un petit peu se détendre, hein, pour reprendre l'expression de
Ah oui.
Raphaël, détendu du slip.
Non, je t'ai jamais dit ça.
Si, 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 si. On va parler un petit peu mercato. Alors, avec deux grands volets. D'abord les arrivées. On en a parlé un peu. On va démarrer tout de suite. On en a choisi 5. C'est ça, oui, 5. Et on va démarrer avec Julian Draxler à Paris. Raphaël, c'était une opportunité et dans un secteur où Paris, de toute façon, avec le mercato raté pendant l'été, avait besoin de remettre de la concurrence pour reprendre les propos de d'Unai Emery. Et Draxler arrive pour ça, quoi. Maintenant, on verra si sur la durée, ce joueur qui a quand même eu certains soucis de comportement partout où il est passé en Allemagne, va, on va dire, un petit peu gagner en rigueur et en maturité. Voilà. En tout cas, il a réussi ses débuts.
Ouais, tu l'as dit, besoin de concurrence et je pense d'intelligence dans une zone où finalement Paris faisait jouer des joueurs peut-être à contre-emploi comme Ressé ou Lucas. Je suis pas persuadé que ces deux joueurs soient faits pour jouer entre les lignes et percuter. Alors Ben Arfa est capable de le faire, mais c'est un joueur extrêmement irrégulier et qui physiquement en plus est irrégulier également, donc on peut pas savoir vraiment ce qu'il va donner.
Même s'il
Draxler,
démarre
c'est
bien,
un.
même s'il a
Ouais,
bien redébuté
c'est
l'année.
intéressant ce qu'il a fait. J'ai trouvé qu'il était. Mais je trouve qu'il a retrouvé un peu de vivacité.
Ouais.
Que ce soit contre le club africain, bon, les mecs en face étaient aussi gros que lui, donc c'est un peu embêtant, mais contre Bastia, c'était pas mal aussi. Entre les lignes, c'est intéressant de voir s'il peut contribuer plus tard sur la saison. En revanche, Draxler, c'est un joueur où tu as des certitudes dans la manière de jouer, dans la compréhension du jeu, dans le jeu combiné. Alors, moi, j'ai un peu de doute sur la contribution en termes d'action décisive. C'est un joueur dont la meilleure saison, c'est 5 buts et 5 passes décisives. Bon, il est jeune encore, hein, mais il a 23 ans déjà, ça fait longtemps qu'il joue en pro. La très bonne saison qu'il fait, c'est sa dernière, c'est 2013-2014 à Schalke, juste avant la Coupe du Monde, où il est à 4 dribbles réussis par match et 2 occasions créées. Des très bonnes stats, et c'est les stats qu'il faudrait retrouver, parce que s'il fait un peu moins bien, bah finalement il aura le même bilan à peu près que Lucas, qui est un joueur qui est souvent critiqué et que j'aime pas non plus, mais qui contribue quand même assez régulièrement. Donc voilà, moi c'est la question que j'ai, c'est est-ce que Draxler va être capable d'élever le niveau de jeu du PSG, pas forcément par les stats, mais par sa compréhension du jeu et par sa capacité à combiner. Alors combiner avec qui, il faut voir, parce que Cavani n'est pas vraiment un joueur de combinaison, mais cette relation peut-être entre Draxler et un latéral, que ce soit Maxwell ou Kurzawa, cette relation peut-être avec Di Maria entre les lignes, voilà, j'ai très hâte de voir comment ça va se développer tout ça.
Christophe a un avis sur Draxler?
Ouais, je suis content. Je trouve que c'est un bon joueur qui est beaucoup plus référencé que au niveau que Reze et qui me semble plus pertinent pour Paris qu'un Ben Arfa qui, même s'il peut apporter en dribblant face à des blocs resserrés dans des petits espaces, m'a toujours laissé circonspect sur sa capacité à pouvoir être un joueur de très haut niveau. Donc, à voir. Moi, je suis un petit peu plus optimiste que Raphaël. Je pense que c'est un joueur qui était peut-être un petit peu dilettante, qui se sentait peut-être un petit peu trop au-dessus du lot pour vraiment être tout le temps à bloc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut passer ce cap et qu'en talent brut, il a largement ce qu'il faut pour jouer à Paris et que finalement, il vaudra peut-être mieux un Draxler à fond qu'un Di Maria à 60% ou qu'un Lucas qui progresse relativement peu depuis 3 ans. En tout cas, ça ajoute des solutions. Et c'est vrai que s'il y a un endroit où il fallait recruter, même si ça fait la démonstration que le recrutement estival était mauvais, bah c'était à ce poste-là. Donc au moins, il y a eu une capacité de réaction là-dessus. Reste qu'il y a encore 2-3 manques dans cet effectif parisien, mais en tout cas, là, ça apporte une solution qui, je pense, va faire du bien à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions.
Ben justement, on va rester avec toi, Christophe. On va parler du remplaçant de Draxler à Wolfsburg, parce que Wolfsburg n'a pas perdu de temps pour dépenser le pognon gagné sur Draxler. Je crois qu'ils ont recruté un autre joueur aussi très cher. Maintenant, on va parler de Paul-Georges Hentep. Hentep en Allemagne, ça peut marcher?
Ça peut marcher. Après, le choix de Wolfsburg peut interroger parce que même si c'est une équipe il n'y a pas si longtemps jouait la Ligue des Champions, battait le Real, etc. Là, Wolfsburg, pour l'instant, ils sont 13e. Alors, même si. Je pense que ça peut assez vite tourner dans le bon sens, remonter. Alors cette saison, je pense que
Ouais, mais ils ont
pour une
que 3
équipe.
points d'avance sur le premier relégable, hein, ça par contre c'est...
Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que objectivement, l'effectif est quand même beaucoup plus fort que pas mal d'équipes de bas de tableau. Et je pense que c'est
Ouais.
pareil pour Gladbach, qui a aussi une toute petite marge sur la
Ouais.
zone de barrage. Normalement, tu as quand même le talent pour remonter. Après, donc oui, je pense que le choix de la Bundesliga est plutôt judicieux. Et Wolfsburg a aussi décidé de se renforcer là, pendant ce mercato. Il y a aussi Younous Mani notamment qui a signé. Donc si tu mets ces joueurs-là autour d'un Mario Gomez, que tu as Maximilian Arnold notamment au milieu, Bongi Lavoggi qui est un joueur honnête, Younous Mani qui est vraiment un bon joueur de Bundesliga, je pense que tu as les moyens de remonter. Après, est-ce que Entebbe va savoir s'adapter à l'environnement étranger en Bundesliga? Ça c'est une variable, mais quand tu vois ce que fait par exemple un Dembélé en Bundesliga, même si Dortmund est plus fort et meilleur avec le ballon, donc forcément il a beaucoup plus d'opportunités de dribble et plus d'espace créé par ses partenaires. Malgré tout, il a les moyens de briller. Après, briller dans quelle mesure? Est-ce que ça sera sur une demi-saison du 8 buts et 5 passes décisives? Ou est-ce que ça sera du 4-4? Je pense que dans un premier temps, ça sera plus du 4-4 et qu'il a quand même pas non plus une place complètement garantie dans cette équipe. Il va devoir quand même bosser un petit peu pour être dans la rotation. Alors, il y sera. Maintenant, est-ce qu'il sera aussi décisif qu'il a pu l'être par séquence en Ligue 1? À voir. Mais en tout cas,
Après,
le championnat est pas trop bête.
pour un joueur d'espace comme lui, le football très porté sur la transition en Allemagne, ça peut être intéressant, cela dit. Parce qu'il aura des possibilités de contre-attaque, il y aura des espaces dans le dos, les équipes ne défendent pas aussi bas qu'en France et de manière aussi resserrée. Alors, pour un joueur qui a ce coup de rein et qui n'est pas capable sur les premiers mètres de lâcher un défenseur, c'est plutôt un projet intéressant. Je pense qu'il a raison de partir dans un club comme ça plutôt que dans un club de première ligue où il n'aurait pas eu le ballon et le ballon aurait volé au-dessus de lui. Donc, Voilà, c'est bien de voir que les joueurs ne sont pas obnubilés par la première ligue. Après, en effet, Wolfsburg, c'est un club assez irrégulier. Et c'est clair que tu peux, t'as aucune garantie quand tu signes dans un club comme ça. Alors que si tu avais signé à Dortmund, en effet, bon, il n'avait pas forcément le niveau. Mais tu savais que tu aurais eu tes occasions de briller.
Et justement, pour rester un petit peu sur Antep, Raphaël, est-ce que son départ de Rennes, ça laisse un sentiment d'inachevé pour ce joueur dans ce club-là? Ou est-ce que de toute façon, il n'aurait pas pu apporter plus que ce qu'il a apporté, sachant que bon, à côté de ça, il a quand même été très souvent blessé.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça laisse un goût inachevé chez les deux parties, à la fois chez le joueur qui avait l'air reconnaissant envers Rennes qui l'a amené en Ligue 1, et de la part des supporters qui pensaient que ce joueur pourrait passer un cap. Hein. À une époque, il était en équipe de France avec Fekir quand les deux
Oui,
marchaient en
c'est
même
vrai.
temps. Voilà, et il avait d'ailleurs fait une très bonne entrée dans ce match.
Oui,
Donc
il donne un ballon de but à Fekir, je crois. Je crois que
ouais,
c'est
voilà,
ça l'histoire, hein, sur le match.
c'est un joueur de percussion. On en a pas mal en France comme ça, mais qui a des qualités, qui a l'air assez posé dans la tête sur les épaules en tout cas. Mais il a été très très souvent blessé. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Dembélé qui l'a un peu mis dans qui l'a laissé dans l'ombre, quoi, parce que Dembélé était tellement fort. C'est un joueur qui a 24 ans, Ntep, maintenant. À une époque, c'était une pépite, on attendait beaucoup de lui. Là, il a l'occasion, pas de se relancer, mais de rattraper le temps perdu, je
De se
dirais en tout cas.
lancer, ouais, quasiment. C'est
Ouais,
ça.
c'est ça. C'est très triste de voir des joueurs comme ça, mais en même temps, sa carrière n'est pas terminée, et puis ça a l'air d'aller un peu mieux physiquement. Il est passé avec Gourcuff, donc peut-être que ces 6 mois lui ont fait du bien, en tout cas dans le jeu.
À suivre donc à Wolfsburg. Et on enchaîne avec trois transferts qui, au final, concernent la même équipe, puisque ça concerne le FC Séville. Alors, il y a d'abord, on va dire, French guy, Kolodziadja, qui a rejoint German team, Gladbach. Donc défenseur central qui jouait pas trop, hein, je crois, avec Sampaoli et qui est donc parti lui aussi en Allemagne, remplacé par Clément Langlet qui était on va dire, la petite pépite de Nancy en défense et qui donc a rejoint le FC Séville. Et troisième arrivée, celle de Stevan Jovetic, Christophe, devant un FC Séville qui veut se renforcer et qui a des ambitions peut-être pour la deuxième partie de saison directement.
Je pense qu'effectivement, l'arrivée de Jovetic, ça fait partie d'une stratégie de densifier l'équipe. Autant Langlet, je pense qu'on est plutôt sur le fait d'améliorer la défense centrale, qui est quand même le gros point faible de cette équipe-là, dans la mesure où tu joues la relance au sol et où tu as besoin de défenseurs centraux qui puissent apporter quelque chose là-dedans. Et on voit qu'Adil Rami, notamment, est assez catastrophique là-dedans, alors que quand tu vois la passe décisive que fait Parreira sur le quatrième but de Séville contre la Sociedad, où c'est une espèce de passe de 30 mètres en profondeur parfaite pour Ben Yedder, même si Parreira n'est pas non plus le meilleur joueur du monde. Mais quand tu vois qu'il est capable de faire ça, tu dis, ah oui, ok, la passe, elle casse trois lignes, elle est
D'ailleurs,
décisive, c'est vraiment très bon.
Séville a l'air
Rami.
de chercher un gaucher, cri, parce qu'il y a aussi Sako qui a annoncé, en tout cas, qui est cité parmi les noms, donc il doit peut-être chercher un mec axe gauche avec cette qualité pied gauche aussi.
Ouais, mais c'est vrai que Rami, ça rend très problématique cette saison. Donc Langlet, ça s'inscrit dans cette logique-là de prendre, on va dire, des meilleurs joueurs de foot sur la partie défense centrale. Par contre, Jovetic, c'est vraiment pour avoir une solution de plus, parce qu'il y a déjà, là, il y a Ben Yedder qui est vraiment en train de monter en puissance, même s'il est encore un petit peu irrégulier. Il y a Vietto qui continue à beaucoup bosser, qui n'est pas toujours réaliste, mais qui fait le boulot. Et donc là, déjà, tu as quand même deux solutions sur l'attaque axiale, et tu as 50 joueurs de couloir, quoi. Tu as les Sarabia, les Vitolo, les Kiyotake qui a complètement disparu de la circulation, Correa, enfin voilà.
Vitolo qui peut jouer en pointe aussi.
Ouais, donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses et je pense que Sampaoli a réalisé que son jeu était très énergivore, que le jeune Carlos Fernandez qui a joué un petit moment vers septembre, c'était encore un petit peu tendre, donc il a eu l'opportunité de Jovetic qui est vraiment un bon joueur. Alors après, est-ce que ça va marcher ou pas? Je pense que c'est du qui tout double, mais du qui tout double avec un risque assez faible puisque c'est simplement un prêt avec option d'achat, l'option d'achat est assez haute. Pas sûr qu'il lève, je crois que c'est de
Faut
mémoire,
voir.
c'est 15 millions, je suis pas sûr que ça lève, mais
15 millions en 2017, si le mec te fait une bonne partie de saison.
ouais, après je suis pas sûr qu'il ait forcément beaucoup l'occasion de
Ouais.
s'exprimer, mais c'est vrai que tu vas jouer sur deux tableaux, tu peux avoir des blessures parce que tu cours beaucoup et Sampaoli demande beaucoup et il peut assez facilement changer de système d'un match à l'autre, donc tu peux avoir besoin de qualités un petit peu différentes. Jovetic a ce profil de 9,5 qui peut par séquence jouer en pointe encore mieux que quand Vitolo ne joue en pointe. Donc ça peut payer. Je suis pas sûr que ça paye, mais en tout cas le risque est quand même assez faible.
Raphaël, tu veux rajouter quelque chose sur ces mouvements à Séville ou pas?
Notamment sur Jovetic, parce qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'était le futur grand attaquant. Il faut pas oublier qu'il est recruté par Manchester City pour une grosse somme à l'époque. À l'époque où City recrute en plus des attaquants et n'arrive pas à en faire fonctionner d'autres que Agüero et Dzeko. C'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce qu'il m'avait fait une énorme carrière sur Football Manager il y a quelques années. Et puis j'ai l'impression qu'il s'est perdu en allant à l'Inter, comme beaucoup d'autres joueurs depuis quelques années d'ailleurs. Voilà, c'est un club où c'est un espèce de trou noir à joueurs de qualité, ce club là. Et récemment, je lisais que Gagliardini, un très bon joueur de l'Atalanta, allait le rejoindre aussi pour 30 millions d'euros. Alors, milieu de terrain de 22 ans, un peu à la Ricky Alvarez, pour ceux qui se rappellent de Ricky Alvarez. Bon, j'ai peur que ça finisse pareil. Donc, je suis curieux de voir s'il va jouer et s'il a encore les qualités qui faisaient de lui un joueur assez exceptionnel à la Fiorentina de Montella.
Allez, on enchaîne du coup avec les rumeurs maintenant. On va se concentrer surtout sur les clubs français. Les clubs français de tête, hein, désolé Angers par exemple qui a signé Kevin Berigaud pour essayer de régler peut-être ses problèmes en attaque. On démarre avec le PSG avec la question de toute façon qui va se poser jusqu'à la fin du mercato, et c'est Spike qui nous la pose sur Twitter. C'est recrue en attaque pour Paris, qui et pour jouer comment? On va commencer par Christophe. Est-ce que tu as trouvé un nom d'ailleurs? Parce que tout à l'heure tu
Ça
nous
fait
cherchais
depuis
un
le
nom.
début du podcast, il cherche en sous-marin en fait.
Ouais.
Ouais, et non, j'ai pas trouvé. Alors tant
Tu
pis, ça arrive.
t'appelles Olivier Létang ou quoi? Bosse un peu.
Bon, après, Olivier Létang, j'espère qu'il a quand même plus qu'un quart d'heure, hein, pour avoir des idées. Mais je
C'est
pense qu'il y a.
quand il faut gérer le parking, t'as pas le temps pour autre chose à côté.
Je pense qu'il y a deux profils de joueurs. Soit tu prends un mec qui est en échec dans son club, comme pouvait l'être Jovetic. Bon, maintenant c'est un petit peu tard. Mais donc, on va dire qu'un club de milieu, voire haut de tableau d'un autre championnat, comme peut l'être l'Inter, Fiorentina, etc. Un joueur comme ça dont voudrait plus forcément son club que tu peux récupérer. Donc ça peut être, je sais pas, un Batshuayi par exemple, même s'il signera jamais. Il y a Zarate qui est pas toujours titulaire, ou Kouma Babacar notamment
Ah
à la
oui.
Fiorentina, des joueurs comme ça.
Il fait mal à la canne, je pense, Babacar, donc.
Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment pour définir un profil des noms. Il y en aura plein. Les gens qui nous écoutent vont trouver de même. Soit tu vas chercher un joueur qui marque beaucoup, mais peut-être dans un championnat de seconde zone. Je sais pas, tu peux prendre le meilleur buteur de Championship qui joue à Newcastle, qui a marqué, je crois, 19 buts à mi-saison. Ouais, 19 buts, Gale, enfin, un joueur comme ça qui est assez peu référencé, mais qui est en confiance. Ou alors tu peux essayer de relancer par exemple un Jonas qui a été blessé et qui a quand même de la concurrence avec Jiménez, Mitroglou, etc. à Benfica. T'as le pouvoir financier, t'as le pouvoir d'attraction, et sinon tu peux tenter Drogba.
Non, mais c'est très difficile de trouver. Le poste d'attaquant, c'est particulier parce que tu peux très vite avoir des regrets. Je pense que le PSG a peur de donner 3 ou 2 ou 3 ans de contrat à un mec qui finalement va servir 6 mois et puis ne plus trop jouer, parce que le PSG devra recruter un autre grand attaquant assez rapidement. De toute façon, il y a très peu de grands clubs aujourd'hui qui ont un seul avant-centre de classe internationale. Le truc, c'est qui va accepter de jouer sur le banc derrière Cavani? Au Real Madrid, t'as Morata et Benzema qui alternent. Alors Morata a un grand amour pour le Real, donc ça explique aussi un peu sa patience. Mais il y a beaucoup de clubs où t'arrives pas à trouver de deuxième attaquant. Même le Barça, ils ont pris Alcacer, mais Alcacer, dès qu'il joue, il y a un écart immense avec Suarez. Et beaucoup de clubs ont du mal à trouver ce deuxième attaquant, surtout quand le titulaire est rarement blessé, parce que tu sais que t'auras pas l'occasion de jouer beaucoup.
Je pense que la solution à court terme, Christophe l'a cité, le problème, c'est vraiment, on ne connaît pas son état de forme actuel. Mais pour moi,
Drogba.
le profil idéal, non, c'était pas Drogba, c'était, et c'est toujours un joueur comme Jonas, c'est-à-dire qui est capable à la fois d'entrer dans la rotation et d'être un soutien à Cavani aussi, c'est-à-dire d'apporter des stats, mais depuis une position un peu plus reculée sur le terrain, parce que c'est à l'inverse, par exemple, de Di Maria ou de Lucas. C'est un joueur qui a la fibre pour aller naturellement dans la surface. Quand Paris, par exemple, tu sais, envoie la balle sur les côtés, tu n'aurais pas que Cavani en seule solution dans la surface, tu aurais un deuxième joueur avec ce profil-là. Et en plus, c'est un joueur qui peut s'insérer un peu dans la construction et jouer en remise, etc. Et être un pivot assez intéressant au sol. Donc je pense que pour moi la bonne recrue c'est ça, c'est-à-dire un joueur qui serait capable de remplacer Cavani en effet pour faire tourner. D'ailleurs en ce moment Paris doit faire sans Cavani, ça se passe bien, mais bon il a un problème au genou je crois si j'ai bien suivi. Du coup il joue moins, et un joueur qui serait aussi capable de jouer avec lui en prenant un des postes en soutien. Alors soit dans un 4-2-3-1 en étant l'attaquant de soutien, le 9,5 ou le 10 comme vous voulez, soit en se retrouvant sur le côté. Et c'est pour ça que Jonas faisait partie d'une liste de 8 joueurs sortis par l'équipe là, il y a quelques semaines sur qui va doubler le poste de Cavani. Et c'est vrai que ça me semble être le nom le plus intéressant. Évidemment en passant sur le plan du profil, parce qu'après son niveau actuel à Benfica, il joue pas beaucoup, il a été blessé longtemps si je me souviens bien, et du coup voilà,
ouais, c'est les mêmes questions que pour Jovetic qui aurait pu assumer un peu, à peu près le même rôle. Si Paris ne trouve pas, ça m'étonnerait pas qu'Emery finisse avec un Ben Arfa deuxième en espèce de faux numéro 9 comme il faisait pendant la préparation cet été quand Cavani n'était pas encore revenu, où il retrouvait un poste similaire à celui de Nice, sauf qu'il touchait un peu moins le ballon et il avait moins de liberté pour décrocher, donc ça le frustrait. Mais c'est à peu près le seul joueur qui me paraît capable de jouer comme ça, comme tu l'as dit, un peu dos au but, de combiner, d'être capable de tenir le ballon. Je vois pas vraiment d'autres joueurs à part ça. Jean-Kevin Augustin, là, s'est mis un peu dans la merde en postant sur Instagram un espèce de message pas très subliminal. Donc voilà, c'est vraiment... On tape souvent sur la direction sportive du PSG pour ses recrutements, mais je pense que là... tu te rends compte de la galère que c'est de recruter un attaquant en janvier, un deuxième attaquant surtout, dans une équipe où tu as vraiment besoin de qualité.
En plus, ils ont raté Isaac Kizeteline, alors bon.
Et Diabaté qui retourne à Metz.
C'est vrai qu'il y avait une doublure là, pour la Ligue 1. Bref, ben on enchaîne justement, tu parlais un peu de Nice en évoquant le cas de Ben Arfa. On va parler de Nice puisqu'on a quand même eu deux questions sur le GC Nice. Alors deux questions qui un petit peu se rapproche. Alors une question de Sinoc qui demande: est-ce que Nice a vraiment besoin de recruter vu qu'ils n'ont plus rien d'autre à jouer que la Ligue 1, puisqu'ils se sont fait sortir à la fois de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France le week-end dernier par Lorient. De gros noms circulent, est-ce utile? Et la deuxième question, Christophe, c'est: d'où vient l'argent de Nice pour que l'on évoque des Depay ou des Lavezzi? Est-ce que Nice aussi, s'il bouge cet hiver, est-ce que c'est en prévision déjà de la qualif en Champions League?
Je ne suis pas persuadé, je pense qu'ils sont en train de visualiser le fait qu'il y a une fenêtre de tir et que s'il faut faire des investissements pour jouer le titre, c'est maintenant, parce que tu n'auras plus forcément l'opportunité dans un futur proche. Alors après, effectivement, peut-être qu'ils sont dans l'idée de penser à la Ligue des Champions l'année prochaine, mais de paille, etc., c'est plus, je pense, sur les 6 mois restants pour, comme je disais concernant Paris, prendre des joueurs qui sont en échec dans leur club et espérer que sur leur talent naturel, ils puissent te bonifier sur quelques mois sur la fin de saison pour maximiser tes possibilités, mais qu'ensuite il faudra faire autre chose et plus te servir de ta base si tu veux ensuite rester sur la Ligue des Champions, garder des séries par exemple. L'argent, si je dis pas de bêtises, c'est les Chinois et les Américains qui ont pris 80% des parts cet été avec des investisseurs qui sont je pense blindés, qui en tout cas ont les moyens largement de faire des investissements très ciblés sur quelques joueurs. Et c'est vraiment la stratégie inverse de Saint-Etienne, on en parlait il y a une paire de semaines, où là c'est un plafond salarial et c'est que des joueurs entre guillemets moyen plus. Eux ils font le choix inverse, c'est-à-dire qu'ils se reposent sur du recrutement et de la formation de joueurs corrects qui vont te permettre d'avoir une base, et ensuite ils prennent 3-4 fourrés classés au milieu pour bonifier un peu tout ça avec des investissements très ciblés. Alors tu as le risque que ça marche pas du tout et que donc tu mettes de l'argent dans le vide. Enfin, si Dante avait été un flop, effectivement, passer le coup médiatique, on se serait dit c'est vraiment mal joué. Mais si tu arrives à bien cibler tes 3-4 investissements, bah, tu peux, avec une bonne base, avec les séries Walter, etc., qui sont du recrutement judicieux par ailleurs, tu peux jouer le haut de tableau. Donc là-dessus, moi, je trouve pas ça idiot, la stratégie en elle-même. Après, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de prendre un joueur supplémentaire et à quel poste? Je ne suis pas persuadé que Luis Gustavo, par exemple, ça soit forcément un choix judicieux, dans la mesure où, même si c'est un petit peu différent, tu as Jaco Ziello qui joue très peu au milieu. Donc ça prouve quand même que tu mets déjà sur le côté des bons joueurs. Donc est-ce que tu vas pas frustrer un Walter si tu mets Luis Gustavo à sa place? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu vas pas prendre quelqu'un pour jamais le faire jouer? Par contre, Depay, pourquoi pas, effectivement, là, je ne sais
Ouais.
pas ce que vaut Depay actuellement, mais tu peux ajouter de
Bah,
la qualité sur un poste décisif.
y a un poste à prendre sur l'aile droite où c'est Esric qui joue la plupart du temps depuis quelques semaines.
Quand Nice est
Là,
en
tu
4-3-3, en
peux.
tout cas.
Ouais, c'est ça. Là, tu peux mettre quelqu'un. Parce que Balotelli, je pense, va continuer à jouer un match sur deux à peu près. Ça m'étonnerait qu'il retrouve soudainement la forme d'ici la fin de la saison. Donc là, t'as un poste intéressant. Surtout si, bon, c'était une rumeur, hein, mais l'option d'achat était autour de 10-12 millions d'euros. Pour un joueur qui avait sa qualité aux Pays-Bas, s'il arrive à ressusciter, ça me paraît intéressant. Donc c'est un petit risque à prendre qui serait sympa à voir en Ligue 1. Après, j'ai l'impression que ça s'est calmé depuis quelques jours, en tout cas. Et que le nom dont on parle, c'est Sirigu pour le
Voilà,
moment.
mais justement, j'allais te lancer sur Sirigu. Alors que Cardinal, on en parlait dans notre bilan avec Julien Assuncao de côté stats. Cardinal a fait une très bonne première moitié de saison. Alors, est-ce que Sirigu, c'est vraiment utile? Sachant que Sirigu, en plus, c'est un joueur qui, à Paris, c'est un gardien en tout cas, s'est révélé être un bon gardien, mais pas le gardien qui va te sortir la parade inattendue, quoi, qui va te sauver un but tout fait. Est-ce que ça serait une bonne idée alors qu'aujourd'hui il y a une dynamique pour Cardinal et une dynamique qui fonctionne à Nice?
Bah, c'est vrai que tu te mets en danger parce que tu remets en question quelqu'un qui est sur maintenant deux saisons intéressantes. Après, moi, je suis toujours un peu sceptique sur Cardinal. J'ai l'impression que ses performances sont très inégales. Il va te faire un match où il va tout sauver et en effet, ça va lui faire des stats incroyables. Et puis, il y a un match d'après où il va faire une boulette ou un
Bah,
truc pas sûr où il
à
va
Paris
perdre le
par
ballon.
exemple.
Ouais, des choses comme ça. Ouais, après, c'est l'inverse complet de Sirigu qui est jamais dans les extrêmes. Lui qui est toujours à un niveau 5, 6 sur 10. Alors que Cardinal peut passer du 2 au 8 ou du 2 au 9, quoi. Donc c'est un choix à faire pour Nice. Après, le souci, c'est qu'ils ont depuis quelques années un manque au niveau du deuxième gardien, où ils avaient Moezassen
Ouais.
qui était annoncé comme un futur très grand et puis qui avait énormément de difficultés à passer au niveau professionnel. Je ne sais pas si Poulpin est encore sous contrat, mais il était blessé longuement et
Je crois pas.
je sais même pas s'il est encore à Nice.
Je crois pas, mais c'est vrai que
Donc.
le deuxième gardien actuel, Benitez, je l'ai vu
Ah
face
oui,
à
c'est vrai
Bo
qu'il y a Benitez
Ouais,
aussi.
mais je l'ai vu face à Bordeaux et c'était pas ça du tout. Et contre Lorient encore, il y a eu un but de gag où il rentre, je crois que c'est. Il veut sortir pour aller récupérer la balle et il rentre dans le marchand qui est au duel, il fait tomber le marchand et derrière Lorient va marquer.
Un Mad
Donc
Max le marchand. Bon, en
c'est
tout cas,
assez compliqué.
t'as l'impression dans les noms cités que Nice veut passer quand même à un niveau supérieur. En dehors de la question est-ce que dans les 6 mois qui viennent, ça sert de recruter. Quand tu vois les noms cités, on est passé clairement à une autre étape du projet. On sait qu'on a des jeunes sur lesquels on peut s'appuyer et vendre si on a besoin d'argent. Et puis à partir de maintenant, on va essayer de choper ben, un peu comme on avait fait avec Dante et Balotelli, choper des mecs qui peuvent apporter un niveau un peu au-dessus et pourquoi pas aller faire des choses en Ligue des Champions si la qualif est faite.
Et justement, on va enchaîner, Christophe, avec une autre équipe qui veut passer à un niveau supérieur, c'est l'OM. Au niveau des rumeurs, c'est parti un peu dans tous les sens. Ça, je crois qu'il y en a peut-être une par jour, un joueur par jour qui est lié. Il y avait eu John Obi Mikel qui depuis est parti en Chine. Il y a eu Jordan Amavi, a priori c'est trop cher. Au niveau des latéraux, il y a Mathieu Debuchy qui dernièrement a été annoncé aussi. Mathieu Debuchy qui retrouverait évidemment Rudy Garcia. Mais c'est surtout au milieu que ça se passe, avec deux rumeurs qui étaient plus ou moins chaudes ces derniers jours. Une très chaude, c'est Morgan Sanson. Et une moins chaude et qui m'a en tout cas moi pas emballé du tout, c'était le retour de Dimitri Payet. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Payet ou Sanson par exemple, vers quoi tu pencherais toi?
Bah déjà, il y a un truc dans la phrase que tu viens de dire, c'est à ma vie c'est trop cher, et juste derrière tu dis on pense au retour de Payet.
C'est pas
Si
faux.
à ma vie est trop cher alors que c'est un poste où tu as besoin de recruter, pourquoi est-ce que tu irais prendre Payet qui est encore beaucoup plus cher à la fois en indemnité de transfert, je pense, et en salaire? Donc là, il y a déjà quelque chose qui m'interpelle, même si forcément tu payes plus cher des joueurs offensifs. À ma vie, c'est un poste sur un joueur à fort potentiel qui a été coupé dans son élan par une blessure, mais qui sinon était parti sur une courbe, pourquoi pas, pour aller assez vite en équipe de France. Et pourquoi est-ce que tu prendrais pas un joueur comme ça à un poste, même si c'est un poste entre guillemets de l'ombre latéral, c'est quand même un poste où avec les années qui devient de plus en plus important dans le foot actuel, sur un joueur jeune à potentiel. Qui en plus joue en D2, et alors que tu as des manques puisque tu décales des axios sur ce poste-là de latéral. Alors pourquoi est-ce que tu refuserais de mettre de l'argent là-dessus? Alors après, il n'y a peut-être pas que la considération financière, je ne sais pas, mais pour aller chercher Payet, qui est un joueur qui a déjà montré ce qu'il pouvait faire à Marseille, et qui au mieux fera la même chose qu'il a faite quand il était au club, et au pire, sera nettement en dessous, et on se dira, en gros, il va écorner son image, quoi. Ça sera le retour raté du fils prodigue,
Ah, il
et
va les
sachant que
corner, sauf
Payet.
s'il revient et qu'il est très bon, quoi.
Ouais, mais enfin, au mieux, il est très bon et il sera à la hauteur du prix qu'on l'aura payé. Et au pire, il va être comme il est parfois avec West Ham, c'est-à-dire qu'il va faire une bonne passe, un bon coup franc, mais sinon dans le jeu, il va être assez irrégulier, comme il a été relativement irrégulier dans toute sa carrière. Honnêtement, je suis pas sûr que le fait de faire revenir des idoles, ça soit la vraie stratégie de recrutement à avoir. Pour moi, la stratégie de recrutement, ça va être au contraire prendre des jeunes à potentiel qui peuvent construire quelque chose à Marseille sur la durée, comme l'a fait un petit peu Payet il y a quelques années, et de prendre à ma vie, de prendre un Sanson. De prendre des gens comme ça, après c'est dommage, là il y a Jean-Pierre Papin qui a signé comme manager-entraîneur d'Auxerre, donc là ils ont raté ça pour un
Ils ont
peu
raté un
encadrer ce
attaquant.
Bizarreta, mais non, mais sinon sérieusement je pense qu'effectivement il faut partir sur des joueurs français entre 22 et 25 ans qui puissent rester là plusieurs années
Non,
et
parce que
qu'avec ta capacité financière tu puisses les garder au lieu de faire revenir entre guillemets des vieilles gloires.
Ouais, mais ton questionnement, il prouve qu'on ne sait pas vraiment ce que veut faire l'OM exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent faire un projet similaire à celui de Monaco depuis quelques temps, c'est-à-dire recruter des jeunes à fort potentiel, comme tu l'as dit, pour qu'ils viennent passer 2-3 ans et ensuite partir? Ou est-ce qu'ils sont déjà dans un projet plus ambitieux et plus risqué, où tu fais signer des mecs qui sont peut-être de l'autre côté de la tranche d'âge, c'est-à-dire vers 28, 29, 30, mais par contre des noms qui vont amener un saut de qualité directement à l'effectif et te permettre de faire des choses directement supérieures. Là, on ne sait pas encore, tu vois, on sait, entre Sanson et Payet, par exemple, c'est deux joueurs qui sont dans des trajectoires complètement opposées. Voilà. Alors que Lille, par exemple, qui prend Campos avec Gérard Lopez qui le prend de Monaco, on imagine que le projet est assez similaire. Et d'ailleurs, la rumeur Diakabi de Rennes à Lille, en tout cas l'offre de 5 millions, c'est ça si je ne me trompe pas, Christophe, qui a été faite
C'est ça.
il n'y a pas longtemps par le LOSC, ça prouve que finalement Campos veut répéter ce qu'il a fait à Monaco dans un autre environnement.
Est-ce qu'on est sûr que Sanson soit largement inférieur à Payet? Est-ce que le Payet actuel
C'est
est
pas
dans
le
le
même
West Ham
profil.
actuel? Oui, mais je veux dire au niveau intrinsèque, est-ce que Sanson va pas te faire un saut qualitatif équivalent à Payet pour moindre frais et pour une durée plus grande?
Disons que tu as plus de certitude avec Payet quand même, qui a un niveau assez intéressant, en tout cas dans les gros matchs et en équipe de France depuis quelques années maintenant.
Enfin, personnellement, puisque j'ai le droit
Sais
de
pas,
donner mon avis aussi.
j'ai l'impression que vous aimez pas trop Payet tous les deux en fait,
Bah,
donc
c'est pas une question de pas aimer Payet, c'est que tu as un joueur qui a 30 ans, je crois, maintenant,
Ouais.
Payet aujourd'hui, 29, il va les avoir en mars, les 30 ans. Alors, évidemment, t'es pas fini à 30 ans, mais par rapport à une rumeur et par rapport à Morgan Sanson, je trouverais beaucoup plus intéressant de compléter le milieu de terrain et de mettre un joueur comme Sanson aux côtés de Maxime Lopez, parce que je pense qu'il parlerait le même football, plutôt que de faire revenir Payet, qui va rester 2-3 ans,
Non, mais
2-3 ans maxi, alors
si
que...
tu peux faire les deux. Après, la question, c'est aussi.
Après,
Moi,
la question est si tu
je
peux
pense
faire
qu'on
les deux, c'est sûr que...
sous-estime aussi le potentiel com de l'opération. Parce que imagine que Lille, là, comme c'est annoncé par le journal de Christophe, La Voix du Nord, imagine que Lille signe bien Bielsa. Si de ton côté, tu signes Payet, tu vois, il y a un côté genre on a un partout, quoi. On n'a pas réussi à faire venir Bielsa, mais par contre, on vous ramène le mec qui fait une saison énorme avec Bielsa. Alors que si tous les supporters marseillais voient Bielsa signer à Lille et de ton côté tu fais pas d'opération, c'est voilà, je pars dans des trucs de science-fiction, mais je pense qu'on sous-estime l'opération com de l'OM sur ce transfert, sur cet éventuel transfert, parce que finalement ça s'est calmé un peu depuis quelques jours aussi, j'ai l'impression.
Ouais, mais après, ça revient à ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il te refait pas la même saison qu'avec Bielsa.
Ouais, bon après, ce serait pas le premier club qui se trompe quand il récupère beaucoup d'argent, donc.
Ouais, c'est pas faux. Mais non, enfin, moi, personnellement, je pense que leur priorité, c'est de compléter ce milieu et d'avoir une belle base avec Vainqueur, Lopez et Sanson au milieu de terrain. Et ensuite, je pense déjà que si ce milieu de terrain se met en ordre de marche. Se met en ordre de marche. Déjà, les trois mecs devant qu'ils ont actuellement, au final, j'ai déjà oublié le titulaire sur l'aile gauche à l'OM.
Est-ce qu'il y a un titulaire sur la gauche à
Ouais, mais
l'OM?
je le cherche, j'arrive, ça ne me revient pas, j'ai un trou. Bref, t'as quand même Thauvin et Gomis devant. Je pense que si t'as le
Et
milieu,
Gueye sans
hein,
doute.
Ouais, c'est vrai, c'est Clinton Anger. Mais si t'as ce milieu-là en ordre de marche, je pense que déjà devant, je pense qu'ils y gagneront, ils seront meilleurs. Après, c'est sûr qu'un joueur comme Payet, ça peut faire ça peut t'apporter à la fois sur coup de pied arrêté, qui permet quand même en Ligue 1 de débloquer beaucoup de situations. Donc c'est aussi un pied gauche à pas pied gauche hein, ou non pied droit
Pied
plutôt
droit, pied droit.
pied droit à ne pas négliger. Enfin bref, on verra. On va juste finir avec la petite rumeur qui concerne l'Olympique Lyonnais. Je crois que c'est Raphaël, t'es chaud là-dessus sur Anagnia Nusaj. Donc qui joue à Sunderland cette saison et qui serait annoncé en prêt du côté de l'OL. Un OL de toute façon qui cherche depuis pas mal de temps un joueur capable de jouer à la fois en pointe et sur un côté, si mes souvenirs sont bons. Alors bon,
Oui.
ils ont pris Mateta, bon, on l'a pas vu encore. Mais
Il s'est pas
voilà,
servi.
une rumeur Yanouzage et je pense que tu es assez positif sur cette idée-là.
J'ai l'impression que les Lyonnais détestent l'idée, en tout cas, de ce que j'ai lu sur Twitter. Les Lyonnais sont très sceptiques.
Ils n'aiment pas
Alors, c'est
grand-chose, hein, donc.
un joueur qui a énormément de talent. Alors, il en est dans un club où les joueurs avec du talent ne sont pas forcément mis en avant. Puisqu'à Sunderland, si tu me dis qui performe à Sunderland, bah, à part Jermaine Defoe, et encore, c'est sur la moitié sur penalty. Il n'y a pas grand monde qui est bon dans ce club. En revanche, Yanouzaj, dans un club qui a très peu le ballon, c'est 40% de possession, Sunderland, bah, il a quand même des stats intéressantes. Il réussit 4 dribbles par match avec 70% de réussite. Il crée quasiment 2 occasions par 90 minutes. Voilà, je trouve que c'est un joueur de qualité qui est droitier, qui peut jouer à gauche dans le projet de Genesio où finalement les ailiers aiment bien rentrer à l'intérieur dans le 4-3-3. Puis même dans un 4-2-3-1, que ce soit en 10 ou sur un côté, Yanouzaj, c'est un joueur qui peut apporter. Alors, je comprends pas vraiment l'opération. J'ai l'impression que peut-être que Sunderland en a marre du prêt et veut le rendre à Manchester qui ensuite le reprêterait à Lyon. J'imagine que c'est ça à peu près. Voilà, un prêt avec option d'achat pour un joueur comme ça. Si Lyon doit vendre cet été d'autres joueurs, récupérer un Yanouzaj qui est belge, je sais pas s'il parle français par contre. Apparemment, l'opération, il faut quelqu'un qui parle anglais. Donc Gérard Rouillet justifie son salaire.
C'est vrai.
J'imagine que Yanouzaj ne parle pas français. Bon, c'est un joueur de qualité. Moi, je suis toujours intéressé par les joueurs de qualité qui, en plus, montrent qu'il a des stats. Alors, il y a 0 but et une passe D. C'est peut-être pour ça que les gens regardent ça. Ils se disent putain, mais il fait rien cette saison. En revanche, les stats de création sont largement supérieures à celles de Guezal, par exemple. Parce qu'on m'a posé la question hier quand j'ai tweeté sur Yanouzaj. Donc, pourquoi pas. Après, faut voir si Genesio est prêt à mettre en avant des joueurs qui viennent de l'extérieur. On a vu qu'avec Darder, c'est un peu difficile. Si ça peut devenir une tendance, en fait, parce que les effectifs de Premier League sont tellement riches et tellement étoffés maintenant, que je me dis que finalement, dans ces clubs-là, il y a pas mal de joueurs à aller chercher en prêt qui peuvent se révéler intéressants, qui avant n'auraient jamais imaginé revenir en France. Voilà, je sais pas si Gradel est revenu de blessure, si je sais pas s'il est revenu encore, mais il va.
Ah, si, il est là.
Bah, il joue pas, donc par exemple, parce que ce mec-là, il aurait pas envie de revenir en France jouer un peu. Il y a beaucoup d'effectifs en première ligue où les joueurs ne sont pas considérés parce qu'il y a beaucoup d'éléments, comme Tabanou qui était revenu en prêt également. Donc, c'est aussi un projet pour la Ligue 1 de récupérer ces joueurs-là. Pourquoi pas?
Bah ouais. Tu parlais là de Gradel à Bournemouth, t'as aussi Lys Mousset qui était au Havre, qui a mis 14 buts au Havre et qui là cette année a joué une demi-heure avec Bournemouth. Bah si quand tu marques autant en Ligue 2, je pense que tu peux ne pas faire trop tâche en Ligue 1. Donc c'est des choses comme ça effectivement qui peuvent être pas mal pertinentes. Tu peux essayer d'être l'un des clubs à qui Chelsea prête ses 150 joueurs en trop, les Kennedy etc. qui font le trois fois le tour, les Piazzone qui ont déjà fait 50 clubs en Europe. Bah tu peux tenter de faire partie de ceux-là et puis au pire ça marche pas, mais au moins t'auras pas trop investi et puis
Comme
si ça fonctionne bah tant.
Bertrand Traoré qui a l'air assez énorme avec l'Ajax cette saison.
Ouais, c'est ça. Même si l'Eredivisie, je pense que
Ouais,
c'est en
ouais.
dessous de la Ligue 1, ça booste un peu les stats. C'est un peu comme jouer à FIFA en niveau rookie, quoi. Mais il y a quand même des choses à faire si tu réfléchis. Et si, alors, il y a des choses à faire aussi si tu descends en Ligue 2 en nationale. Mais faut pas hésiter à regarder à l'étranger des joueurs qui sont un petit peu moins considérés dans des clubs qui sont tout simplement trop étoffés pour les faire jouer et les mettre en valeur.
Mais justement, tu parlais de Lys Mousset, on terminera là-dessus. Il y a 4 heures, l'équipe qui sort une brève et qui dit que Bastia s'est renseigné pour un prêt et que Metz et Montpellier se seraient aussi positionnés. Donc voilà, les clubs commencent un petit peu à ouvrir les yeux et à voir ce qui se passe dans les fonds d'effectifs de Première Ligue, en gros. Bon, bah, on va s'arrêter là, hein. Ça fait plus d'une heure qu'on discute. On a été, je pense, assez plutôt bon, hein. Plutôt bon, on peut le dire. et on va.
C'est bien notre évaluation comme concept.
Ouais, bien, c'est ça.
Et toujours les bonnes notes.
Et puis, on va vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, certainement la semaine prochaine. On sait pas trop sur quoi encore, on verra bien. Donc, merci Raphaël.
Ben, merci à toi, Florent.
Merci Christophe.
Merci à toi.
Et merci pour le montage après. Et bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas quand vous nous écoutez. Et à la prochaine. Salut.
Goodbye.
Ciao.